La semaine dernière, nous avons commencé l'étude du livre de Michée, dans notre étude des petits prophètes en ce moment. Et on a vu que ce prophète était un contemporain du grand prophète Ésaïe. Alors les petits prophètes et les grands prophètes, c'est pas en raison de leur importance ou de la signification de ce qu'ils ont à dire, c'est en fonction simplement du volume de leurs écrits. Donc s'ils ont écrit beaucoup, ils sont des grands prophètes. S'ils ont écrit des choses plus courtes, ce sont ce qu'on appelle des petits prophètes, en anglais des minor prophets, mineurs mais majeurs parce qu'ils ont à dire. Et Michée annonce l'imminence du jugement de Dieu sur son peuple. Rapidement, vous savez que le royaume de David et de Salomon s'était divisé en deux royaumes et qu'au nord, il y avait le royaume de Samarie, on appelait ça le royaume d'Israël, et au sud, il y avait le royaume de Juda avec comme capitale Jérusalem. Et à l'époque, les Assyriens s'opposaient, c'était la puissance dominatrice du monde, et ils allaient attaquer à la fois le royaume du sud et le royaume du nord. Le royaume du nord de Samarie allait tomber en l'an 722 avant Jésus-Christ. Il y aurait un peu une reprise, ou plutôt un délai, un sursis pour le royaume du sud de Juda, qui lui est tombé en 586, et là c'était l'empire de Babylone qui avait pris les commandes du monde. Et on a dans le livre de Michée, on a un peu une scène de tribunal où Dieu est là pour juger son peuple. Comme il est Dieu, il n'a pas besoin de faire appel à des témoins. Il peut donner le jugement. Et le jugement, c'est que justement, ces nations vont souffrir, ces deux royaumes vont souffrir la destruction. Et au chapitre 2, on a vu qu'il expliquait qu'est-ce qui se passait comme péché dans ces royaumes. Et il y avait des choses comme la convoitise, le matérialisme, l'exploitation des plus faibles par les plus forts, des choses qu'on ne voit plus aujourd'hui, bien sûr, si seulement. Et un autre de leurs péchés, c'est qu'ils écoutaient des faux prophètes, où il se trouvait des prophètes qui leur disaient ce qu'ils voulaient dire, ce qu'ils voulaient entendre plutôt. Je plaisante des fois quand on me dit s'il va faire beau ce week-end ou pas, je dis ça dépend si tu veux qu'il fasse beau. On arrive toujours à trouver une station météo sur Internet où c'est pas si mauvais que ça. Et c'est un peu ce que font les gens avec les prophètes lorsque Dieu parle. Si ça leur plaît pas, ils vont chercher d'autres propos. Et donc Dieu annonce le jugement. Mais s'il juge, c'est parce qu'il aime, c'est parce que c'est un bon père. Et il a du mal à cacher son amour. Un peu comme les parents qui font la discipline avec leurs enfants, mais qui ont du mal à la faire, à l'exercer, ou qui disent des mots un peu sévères à leurs enfants, mais qui, entre eux, se regardent en souriant, en espérant que ça ne va pas trop choquer le petit ange blond ou le petit ange brun. Et Dieu, il est toujours là, prêt à nous rassurer. Et c'est ce qu'il fait. On va se concentrer sur ce verset aujourd'hui. On va lire Michée 2, verset 12. Mais avant, j'aimerais qu'on remette cette étude au Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est la vérité. Merci parce qu'elle est inspirée par ton Esprit Saint. Et qu'elle est pleine de vérité, elle est la vérité, Seigneur. Elle est pleine de sagesse, elle est pleine d'enseignement. Tu es un Dieu saint, tu ne tolères pas le péché, mais tu es aussi l'amour. Et Seigneur, tu nous dis que tu veux Tu veux nous pardonner, que tu as ouvert une voie pour qu'on soit réconcilié avec toi. Seigneur, aide-nous ce matin à mieux comprendre comment Jésus a ouvert pour nous une voie nouvelle et vivante. Aide-nous à mieux le comprendre et que ce soit quelque chose qui puisse transformer nos vies, Seigneur. L'assurance de ton amour, l'assurance de ce que tu as brisé des chaînes. Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. On te remet ce temps. Ouvre nos cœurs à ta parole, Seigneur, et qu'elle puisse nous transformer de fond en comble. Nous prions ces choses dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Donc, l'ancêtre de Judas et d'Israël, c'est une seule personne, c'était Jacob qui était devenu Israël. Et il y avait, au nord, il y avait 10 tribus, parmi les 12 tribus de Jacob, et au sud, il y en avait deux, il y avait Judas et Ephraïm, et Benjamin. Et voici ce que dit le Seigneur, après avoir annoncé qu'il allait venir. Je vous rappelle l'introduction du tribunal. Il était dit, voici l'Éternel sort de sa résidence, il descend, il marche sur les hauteurs de la terre, sous ses pas les montagnes s'effondrent, les vallées s'entrouvent comme la cire qui fond au feu, comme l'eau qui coule sur une pente, et tout cela à cause de la révolte de Jacob, à cause des péchés de la communauté d'Israël. Et là, à la fin du verset 2, il dit, je te rassemblerai tout entier, Jacob. Je rassemblerai les restes d'Israël, je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage, il y aura une foule bruyante. Et puis il a ces paroles un peu mystérieuses, celui qui fait la brèche montera devant eux, ils feront la brèche, franchiront la porte et sortiront par là. Leur roi marchera devant eux, l'Éternel sera à leur tête. Et ce verset de Michée 2, 13, c'est un merveilleux verset messianique qui nous parle de Jésus. Celui qui fait la brèche, celui qui casse le mur, celui qui casse les chaînes, celui qui fait la brèche, ce n'est autre que Jésus. On va le voir plus en détail aujourd'hui. Mais c'est vrai que en anglais, on parle de le breaker, le briseur de brèche. Le meilleur terme pour désigner, c'est Jésus le casseur. Jésus le casseur, Jésus qui vient casser cette séparation dont le prophète Ésaïe parle dans Ésaïe 59, 2, quand il nous dit « Ce sont vos fautes qui ont fait une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Nos péchés créent une barrière entre Dieu et nous, entre nous et Dieu. » Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu est venu casser cette barrière. Il était celui qui a cassé le mur de séparation. Quand on a fait les plans pour ces locaux, au début, on n'avait que l'étage inférieur. Et donc, on n'avait pas les salles du premier étage où on a l'école du dimanche. On avait donc compartimenté l'espace qui est derrière en petites salles. Mais c'était vraiment... D'abord, ça ne marchait pas parce que c'était trop bruyant. On entendait les enfants qui chantaient, qui jouaient ou qui faisaient leur école du dimanche. Et puis, c'était vraiment... les pièces étaient toutes petites, ce n'était pas agréable. Et quand on a pu enfin bouger les activités en haut, pour les enfants. On n'a pas tout de suite, mais ça a pris un peu de temps, mais surtout sur l'impulsion de Tonio, on a commencé à casser les murs. Et d'un seul coup, il y avait de l'espace, on a cette grande salle, et il n'y a pas très longtemps encore, on a agrandi, on a encore cassé des murs. Aujourd'hui, dans les appartements, il y avait les appartements traditionnels à la française, avec la cuisine qui était à côté de la salle à manger, mais c'était généralement un long couloir où on pouvait à peine passer. Alors peut-être que certains d'entre vous ont encore à subir ce genre d'étroitesse. Mais là aussi, la première chose que Tonio et Sébastien, mon autre fils, ont fait quand on est rentré chez nous, là où on est maintenant, ça a été de prendre une masse et de donner un grand coup dans le mur pour nous forcer à aller vers la direction de l'ouverture. Et de la même façon, à un moment, le mot de passe de l'église, c'était « casse le mur » ou quelque chose, parce que on a des photos où on met d'abord une tête et tout ça. Mais ce qui est formidable, c'est que maintenant, tout le monde peut passer. Tout le monde peut passer, et c'est ce que Jésus a fait. Il a fait la brèche, il est monté devant nous, et après nous, on peut continuer à élargir la brèche, on fait la brèche, on franchit la porte, et on va sortir par là. Le roi marchera devant eux, l'Éternel sera à leur tête. Et ce verset, c'est une très belle image du rôle de Jésus qui a ouvert une voie et qui nous invite à le suivre vers la libération, vers la plénitude. Et donc ce Jésus casseur, il a ouvert un chemin. On va voir qu'il a d'abord ouvert un chemin vers Dieu le Père par la croix. Puis non seulement ça, mais il a aussi ouvert un chemin entre nous, les uns vers les autres. Il a ouvert un chemin vers le futur, et il a ouvert un chemin vers le monde. Donc d'abord, le chemin que Jésus a ouvert par la croix. On a cité le prophète Ésaïe qui nous dit que ce sont nos péchés qui font une barrière entre nous et Dieu. Cette barrière entre l'homme et Dieu, elle existe depuis le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu et ont péché. Le péché est entré dans la race humaine. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, c'est l'enseignant par excellence. Il utilise le multimédia pour nous enseigner des choses. Et souvent, ce qu'on peut lire dans l'Ancien Testament, les descriptions, les ustensiles, le tabernacle, toutes ces choses-là ont une valeur graphique, visuelle, de réalité profonde. Il dit que le tabernacle, c'est une réalité des choses à venir. C'est pour qu'on comprenne un peu mieux. Et justement, il y avait, lorsque Dieu a donné les instructions à Moïse de construire le tabernacle, il a donné les plans pour qu'il y ait d'abord un parvis. Donc il y avait, c'était comme un temple démontable et remontable, le tabernacle. Dieu faisait du camping. Il avait accepté de faire du camping pour notre salut. Et il y avait d'abord un grand enclos qui était fermé par des toiles, et à l'intérieur on appelait ça le parvis. Il fallait passer un premier voile pour entrer dans l'enceinte du tabernacle qu'on appelait le parvis. Puis là il y avait des prêtres qui officiaient, et il y avait ce qu'on appelait un autre voile, et on passait et on entrait dans le lieu saint. Et là, seuls les prêtres pouvaient entrer. Et puis, il y avait finalement le saint des saints. Il fallait encore passer un voile pour entrer dans un espace encore plus petit. Et Et c'est là que résidait la gloire de Dieu. En hébreu, la Shekinah, la gloire Shekinah. Cette gloire éblouissante, c'était au-dessus de ce Saint des Saints que se trouvait aussi la colonne de feu qui restait le jour, et qui plutôt la nuit, et la colonne de fumée le jour. Et lorsque cette colonne se déplaçait, que ce soit du feu la nuit ou de la fumée pendant la journée, le peuple devait suivre Dieu. Certains commentateurs pensent qu'en fait ces trois voiles avaient des noms. Le premier s'appelait le chemin. Le deuxième s'appelait, donc ça c'est le chemin, c'est quand on arrivait. Où est-ce qu'on va au temple? Comment on va? Ah ben, le chemin, voilà. Et puis l'autre, c'était entre le parvis pour entrer dans les deux tentes du lieu saint et du saint des saints. Le deuxième voile s'appelait la vérité. C'est là qu'on allait trouver la vérité. Et puis le dernier voile qui séparait le lieu saint du saint des saints s'appelait la vie. Et donc, lorsque Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », il nous dit « Par moi, vous venez à Dieu. Nul ne vient au Père que par moi. » Et ce qui était terrible, c'est que si vous étiez une personne lambda, vous vous trouviez en Israël et vous disiez « J'aimerais m'approcher de Dieu. » On disait, ben, c'est facile, il y a le tabernacle. Puis après, il y avait une construction du temple en dur par le roi Salomon. Là aussi, si vous étiez un païen, vous étiez un touriste, pas un juif, vous vouliez aller voir Dieu, vous vouliez à la rencontre de Dieu, et là, on vous disait, ah, vous ne pouvez pas dépasser cette ligne, vous ne pouvez pas aller plus loin, il y a une séparation, les gentils dans le temple, c'était la cour des gentils, on ne pouvait pas aller au-delà de cette limite. Alors tant pis pour vous, vous restiez. Et puis disons que justement vous ayez été juif, et vous étiez une femme. Vous disiez, moi je veux aller m'approcher de Dieu. Et vous commencez à aller vers en espérant voir la gloire de Dieu. Et on vous dit, ah désolé, vous êtes une femme, vous ne pouvez pas aller au-delà de cette limite. Il y avait la cour des femmes, et il y avait une limite qu'on ne pouvait pas franchir si on était une femme. Et là, je vois, vous êtes juif, vous êtes un homme. Moi, je vais pouvoir y aller. Et en fait, quand vous approchiez, et vous vouliez rentrer dans la vérité, ouvrir le voile, la vérité, pour entrer dans le lieu saint, on vous disait, ah non, 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 c'est réservé aux prêtres. Vous n'êtes pas prêtre? Ah ben non. Alors désolé, vous ne pouvez pas rentrer. Dans le lieu saint, pour évoquer quelques souvenirs peut-être, si vous avez déjà étudié, il y avait la table des pains de proposition, il y avait le candélabre, il y avait l'autel des parfums. Donc c'est là que s'affairaient les prêtres juifs, et à tour de rôle. Mais si, alors, vous dites, moi c'est bon, je suis un prêtre, je ne suis pas un païen, je ne suis pas une femme, je ne suis pas un juif non prêtre, je suis un juif prêtre. Je peux aller vers Dieu. Et vous avanciez, et là on disait, ah non, ça c'est le Saint des Saints, vous ne pouvez pas le franchir, vous ne pouvez pas aller ouvrir ce rideau de la vie, vous ne pouvez pas y aller. C'est réservé aux grands prêtres. Vous êtes grand prêtre? Non. Ah désolé. Et le grand prêtre, lui, il était tout content, il disait, yes, je peux m'approcher de Dieu, je suis le seul de tous ces gens à pouvoir m'approcher de Dieu. Et là, la loi de Moïse lui disait, ah non, tu peux pas venir quand tu veux comme ça, tu peux venir qu'un jour par an, le jour des expiations, le jour du Yom Kippour, que les Juifs ont célébré il y a une semaine à peu près. Et encore, tu pourras venir ce jour-là, mais il faudra que tu offres un sacrifice, un bœuf, un taureau en sacrifice pour toi. Et après, tu pourras offrir un sacrifice pour le peuple, un autre taureau pour le peuple. Et encore, il est dit que les grands prêtres, quand ils rentraient dans le Saint des Saints, ils gardaient on leur mettait une corde au pied, au cas où on n'aurait plus en rien entendu, au cas où ils n'auraient pas été jugés dignes par Dieu d'entrer dans ce lieu très saint, le Saint des Saints. Et à ce moment-là, il fallait le retirer. Mais ce tabernacle, c'était une leçon en 3D, une leçon multimédia pour les Juifs, pour leur expliquer que leur péché, le péché de l'homme qui était entré dans la race humaine, ça faisait une barrière, une séparation entre un Dieu trois fois saint . C'était aussi une façon de dire qu'il était parfaitement saint, mais j'aime bien le fait qu'il y avait, on entrait dans le, par un voile, par un autre, trois fois saint, je suis le chemin, la vie, la vérité, nul ne vient au Père que par moi, qu'il y avait une séparation entre ce Dieu trois fois saint et une race de pécheurs, une race pécheresse, une humanité pécheresse. Paul nous dit dans Romains 6 que si nous sommes esclaves de ceux qui nous maîtrisent, si nous péchons, si nous servons le péché, nous devenons esclaves du péché. Et Jésus l'a dit lui-même. Dans Jean, si vous prenez des notes, ça c'est un verset à noter. Jean 8, 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Bob Dylan, à qui on a remis le prix Nobel de littérature il n'y a pas longtemps, disait que you got to serve somebody. On va finir par servir quelqu'un, on va servir soit Dieu, soit servir le diable. Si on commet le péché, on devient esclave du péché et on va servir le diable. Vous vous souvenez qu'après la crucifixion, il est écrit que le voile avait été déchiré de haut en bas. Ça signifiait deux choses. Ça signifiait que c'est Dieu qui l'avait fait, et ça signifiait que la barrière avait été détruite. Le voile de séparation, là c'était dans le temple, et c'était le dernier voile. Jésus a cassé ce mur de séparation. Alors c'est les mêmes idées, on l'a chanté, c'est le libérateur, il nous libère de nos chaînes, il casse les murs, il déchire les voiles. Et la barrière a été détruite. Dans Hébreu, la lettre aux Hébreux est pleine d'enseignements relatifs à ces choses. Dans Hébreux 6, 19, si vous voulez vous le noter au moins, parlant du fait que Dieu nous a sauvés, il dit cette espérance, verset 19 du chapitre 6 d'Hébreux, « Cette espérance, nous la possédons comme une encre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile. » Cette idée que c'est aller très loin, un peu plus loin, Hébreux 9, 24, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Il y avait cette séparation créée par notre péché. Et là, s'il nous est dit qu'il est entré dans les cieux, c'est parce que il a dû casser cette séparation. Lui, il était venu de notre côté de la barrière quand il s'est incarné à Noël. On parle déjà des célébrations de Noël. En tant que fils de Dieu, il était de l'autre côté de la barrière. Il était avec Dieu de toute éternité, dans le sein du Père. Au commencement, le Père et le Fils étaient l'un avec l'autre, avec le Saint-Esprit, dans une parfaite communion, une parfaite harmonie. Mais après nous avoir créés et voir la catastrophe qu'on avait faite en se livrant au péché, volontairement, délibérément, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, est venu de l'autre côté de la barrière. Et donc, pour nous sauver, il a dû venir de notre côté pour nous ouvrir la porte, pour faire la brèche, pour être le casseur de ce mur de séparation terrible entre l'homme et Dieu. Il était sans péché, et pourtant il y a des paroles terribles. Il s'est identifié avec nous, au point qu'il est dit par Paul que celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions la justice de Dieu. Autrement dit, il est devenu le pire pécheur de l'histoire de l'humanité. Il est devenu, il a été, quand il est venu sur la croix, il avait pris réellement mes péchés, les vôtres, depuis toujours, maintenant et les autres péchés dans le futur. Il s'est chargé d'une noirceur inimaginable. On pense à tous les péchés commis dans le monde en quelques secondes. La corruption, les vols, les meurtres, les guerres, les viols, les choses les plus horribles, l'avarice, les magouilles politiques, tout ce qu'on on a, même dans ma vie, quelques instants, je peux avoir des pensées de péché, la noirceur que j'ai, la noirceur de milliards d'individus, il l'a reçu sur lui, il est devenu péché pour nous. Mais alors on se dit, mais avec tout ce péché, comment est-ce qu'il a pu passer de l'autre côté de la barrière ? Comment est-ce qu'il a pu casser cette barrière ? Hébreux 9 encore nous donne une certitude sur la façon dont il a fait ça. Hébreux 9, verset 12, il est dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, et là c'est dans cette présence avec Dieu, non pas avec le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Il l'a fait une fois pour toutes. On n'a plus besoin d'offrir des sacrifices à chaque fois qu'on s'approche de Dieu. Il est devenu le casseur par son propre sang. Le sang, c'est la puissance par laquelle il est retourné auprès du Père. Parce qu'il était parfait, il n'avait jamais péché. Quand il est devenu pécheur, son sang n'a pas été corrompu, il a pu encore l'offrir comme le sang d'un animal parfaitement saint, comme le propre Fils de Dieu. Et il est dit dans Hébreux notamment qu'il est un peu une image d'un grand prêtre parce qu'il est allé pour nous. Il a offert un sacrifice de sang pour entrer dans la présence de Dieu. Il est allé franchir la barrière pour qu'on puisse faire la même chose. Et Hébreux 10, on peut regarder encore Hébreux 10. Verset 19, à partir du verset 19. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, pardon, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Il a ouvert la séparation, il a cassé la séparation. C'est comme ça que nous sommes sauvés. Nous tous, il n'y a pas d'autre façon, c'est parce que quand on accepte Jésus, on se met au bénéfice de cette destruction du mur par son sang. Et Hébreux 7, 25 nous dit que par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. On s'approche de Dieu et on peut être sauvé seulement par Jésus-Christ, par le sacrifice qu'il a offert, par son sang versé à la croix. Si vous êtes chrétien déjà, mais que vous vous sentez loin de Dieu, de Christ, vous avez du mal à vous motiver pour lire la parole, du mal à vous motiver pour prier, pour venir aux réunions à l'église, peut-être qu'il y a un voile sur votre cœur. On peut se demander. Mais la réalité, c'est que vous pouvez avoir le sentiment qu'il y a un voile, mais si vous vous repentez, le chemin est toujours ouvert en grand. C'est l'ennemi qui aimerait vous faire penser que vous êtes sur la mauvaise pente et que vous éloignez de Dieu. Il est possible que ce soit le cas, mais à tout moment, vous pouvez vous repentir et revenir à lui. Lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Ça c'est Paul quand il dans 2 Corinthiens 4, 16, lorsqu'il disait que les gens ont l'intelligence obscurcie quand ils entendent parler de la Bible, c'est comme un voile qui recouvre leur cœur. Mais si on se convertit, c'est-à-dire si on se tourne au Seigneur, à ce moment-là, le voile est enlevé. Encore une fois, c'est le seul casseur, c'est Jésus. Des fois, on pense qu'on peut casser la séparation en priant davantage, en se motivant, un peu la méthode Coué. Je vais être un bon chrétien, je vais être un bon chrétien, je vais être un bon chrétien. Ou alors on se dit, je vais donner 90% de mes revenus comme dîme. Ce n'est pas une mauvaise idée. Mais ce n'est pas ça qui va vous casser la séparation. Ce n'est pas le service des chrétiens qui sont sauvés et après ils ont l'impression qu'il faut toujours qu'ils soient en train de servir, sinon ils risquent de retomber en arrière. Ou alors c'est des bonnes résolutions. Mais c'est rien de tout ça. Vous ne pouvez pas vous rendre plus digne auprès de Dieu qu'en demandant pardon, en vous repentant et en venant à Dieu par le sang de Jésus-Christ. Venez tel que vous êtes. Il y a des églises, malheureusement encore aujourd'hui, qui emprisonnent les gens dans du légalisme, où on fait des choses pour obtenir la faveur de Dieu. La grâce, c'est de réaliser qu'on a obtenu la faveur de Dieu et qu'on n'a plus rien à faire pour la mériter, mais qu'en reconnaissance et par joie et par transformation interne, on veut le servir en servant les autres, en le servant. N'essayez pas de vous rendre meilleur. Waouh ! Ça, c'est la philosophie de l'homme dans la rue. Comment est-ce que je peux aller au paradis ? Oh, je ne suis pas mauvais, et j'essaye de faire de mon mieux, j'essaye d'être meilleur, toujours. C'est pas biblique, désolé. Ça nourrit la chair, parce que si on fait des progrès, on dit, hein, pas mauvais quand même, hein. Dieu a de la chance de m'avoir dans son camp. Le sang de Jésus est suffisant pour lui. C'est ce qui lui a permis de refranchir la barrière qu'il avait franchie par amour pour nous. S'il est suffisant pour lui, il est suffisant pour Dieu. Ne croyez-vous pas qu'on devrait le considérer comme suffisant pour moi, pour nous ? J'ai dit qu'il avait ouvert donc cette brèche, il avait cassé ce mur de séparation pour nous, qui nous empêchait d'être en communion avec Dieu. Mais il a aussi fait une brèche qui nous ouvre un chemin les uns vers les autres. Le péché a installé une barrière entre l'homme et Dieu, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il a aussi installé des multitudes de barrières entre les hommes. À l'époque de Jésus, il y avait déjà de terribles divisions entre les Juifs et les païens, les Romains, les Grecs, les barbares. Et force est de constater que rien n'a changé sans Dieu. Le monde qui est loin de Christ, je ne parle même pas de Dieu parce que certains pensent être près de Dieu, alors qu'en fait ils sont à des années-lumière du vrai Dieu. Et nous devons annoncer cette bonne nouvelle du vrai Dieu d'amour. Le péché fait qu'il y a des divisions aujourd'hui, des divisions raciales, des divisions sociales, des divisions religieuses, des divisions dans les familles, au travail. Il y a plein d'hostilité, de peur, de ressentiment, d'incompréhension. Et c'est l'histoire de nos journaux, c'est l'histoire de nos médias qui, à longueur de journée, nous parlent des divisions qui sont installées entre tous les hommes. Tous les hommes et les femmes et toute la société, le monde. Peut-être que vous-même, vous avez des divisions dans votre vie avec d'autres personnes. Peut-être des personnes proches auxquelles vous ne voulez plus parler. Peut-être Peut-être même dans l'église, il y a des personnes que vous préférez éviter parce que ce que vous avez entendu qu'elles ont dit, ben, qui me fait, je veux plus les. Ça, c'est terrible. C'est à notre amour les uns pour les autres que le monde reconnaîtra que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Si vous avez des problèmes, des divisions, et je me parle à moi-même, allez voir la personne et cherchez la réconciliation en disant « je te pardonne ». Même si l'autre ne vous pardonne pas, autant que cela est en votre pouvoir, soyez en paix avec tous les hommes. Est-il dit dans Romains. Quelqu'un faisait remarquer que ces divisions, ça commence, c'est assez ténu, c'est pas bien solide. C'est un peu comme une moustiquaire. Moustiquaire, c'est on voit à travers, mais il y a un petit voile quand même, hein, une petite distance qui s'est créée. Si on ne fait rien, ça a des chances de tourner entre. De devenir du grillage de basse-cour. C'est plus difficile à briser, à couper. Puis si on ne fait rien, ça peut devenir un mur de briques. Je vous invite à réfléchir dans vos relations avec les autres, dans votre famille, à l'église, au travail. Est-ce qu'il n'y a pas de la moustiquaire en train de s'installer ? Des toiles d'araignée qui deviennent de la moustiquaire, qui deviennent du grillage, qui deviennent du grillage avec du plâtre, et puis qu'on mure complètement. Jésus est venu pour briser la barrière entre les hommes et Dieu, mais il est aussi venu pour briser les barrières entre nous. Je vous invite à vous tourner à Éphésiens 2. Après les Galates, Éphésiens 2, verset 14. Il fait allusion à deux groupes, c'était les païens et les non-païens, c'est-à-dire les juifs et les païens. Et il annonce, en effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un. Et qui a renversé ou brisé le mur qui les séparait, la haine. On parlait tout à l'heure du temple ou du tabernacle où les gentils pouvaient aller jusqu'à un certain point, mais ils ne pouvaient pas aller au-delà. Il y avait un mur, il y avait un mur de séparation. Et en fait, ce mur de séparation, c'était une façon graphique de représenter le mur dans nos cœurs qui nous sépare des autres. Et qui est la haine. Si on passait le mur en tant que gentil, on risquait d'être mis à mort. La haine, l'hostilité, reprenons verset 13 de Maintenant, en Jésus-Christ, dans Éphésiens 2, « En Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. » Il continue « Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux. » Établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, les païens, et à ceux qui étaient près, les juifs. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Il a fait un travail remarquable. Il a uni ces deux groupes qui se détestaient, les juifs et les païens, le peuple choisi par Dieu et les autres. Alors qu'en fait, à l'origine, il avait choisi ce peuple juif pour annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à toute l'humanité. Eux l'avaient gardé comme un privilège dont ils s'enorgueillissaient. Et il a brisé cette séparation. Et ce qu'il a créé, c'est un nouveau corps, c'est l'Église. L'Église, c'est pas, ça ne doit pas être un lieu de ségrégation. Alors après, on sait qu'il y a des églises ethniques. Elles ont une justification au niveau de l'accueil de personnes qui ne parlent pas encore la langue. Mais on ne devrait pas faire des églises pour les Corses, des églises pour les Bretons. L'Église, elle est pour la, tout le monde. Et c'est un témoignage de l'œuvre de destruction des barrières que Dieu fait et veut faire encore plus. Et si vous avez encore dans votre cœur, vous pensez, je ne peux pas sentir cette personne, il y a une division où mon frère m'a fait ça, je ne le pardonnerai jamais. Jésus est mort pour vous réconcilier avec ces personnes. Si vous êtes prêt à vous repentir du péché dans votre cœur qui a causé la barrière, la barrière s'est érigée à cause de ça, le sang de Christ vous guérit. Vous êtes devenu proche par le sang de Christ, c'était le verset 13. Tout se tient. Vous voyez comment la Bible, c'est un seul message, un message d'amour, un message de faire éclater les divisions, les préjugés, toutes ces choses qui causent tant de malheur à l'humanité. Jésus est passé de notre côté pour casser le mur et nous dire « Vous pouvez me suivre, allons-y !» Troisièmement, Jésus a ouvert un chemin vers le futur. La course, la vie plutôt, c'est souvent comme une course de 110 mètres haies. Ou alors pour les chevaux, c'est le steeplechase, où il faut sauter par les dessus les barrières et les petits lacs qu'ils créent, ou les petits étangs qui sont créés. On se demande toujours comment on va pouvoir franchir l'obstacle qui arrive sur notre route. Les disciples, ils avaient, après la croix, ils étaient paniqués, ils étaient dévastés. Ils n'avaient plus de futur. Ils avaient peur qu'on les attrape et qu'on leur fasse subir le même sort que celui de Christ. Mais un ange va dire aux femmes dans Matthieu 16, 7, « Pourquoi cherchez-vous ici parmi les morts? Il est vivant, il est allé devant vous en Galilée. » Il avait précédé ses brebis. C'est pour ça que c'est un berger. Le Seigneur est mon berger. Il précède ses brebis. Il va préparer le terrain pour vous. Il nous dit qu'il prépare une maison dans les cieux pour nous, un endroit pour nous. On n'a pas besoin de s'inquiéter pour le futur. C'est le missionnaire Jim Elliot qui disait « Je ne connais pas ce que le futur amène, va m'amener, mais je connais celui qui amène le futur, Jésus-Christ. » Est-ce que vous avez peur du futur? Votre santé, vos enfants, vos petits-enfants, le terrorisme, la maladie, chômage, tremblement de terre, incendie? Jésus est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Lui, il ne change pas. Il est notre précurseur. Il est le Seigneur de demain. L'Église non plus n'a pas à avoir peur du lendemain, même si elle passe dans certaines régions du monde par des persécutions terribles. C'est cette confiance dans le Seigneur et dans du fait qu'il... C'est lui qui construit l'Église, c'est lui qui nous soutient dans les pires épreuves, qui permet à ces hommes et ces femmes de rester fidèles à Jésus. Et puis, il a aussi ouvert, on pourrait multiplier les brèches qu'il a créées, la brèche et ses ramifications, il nous a ouvert un chemin pour aller dans le monde. Comme le Père m'a envoyé dans le monde, je vous envoie aussi dans le monde. Certains pensent que Jésus s'est éclipsé, qu'il s'est fait, pour parler vraiment de façon sacrilégieuse, je ne sais plus, mais comme un sacrilège, de dire qu'il a, pris la fuite à l'ascension. Moi, je retourne chez mon Père. Voilà, je suis... Non, il nous dit, je suis avec vous tous les jours. Son Saint-Esprit, il fallait qu'il s'en aille pour pouvoir nous envoyer le Consolateur. D'autres traduisent ça par le Défenseur, le Conseiller. C'est tout ça, le Saint-Esprit. Il est allé reprendre une place d'autorité à la droite du Père et il nous envoie maintenant dans le monde. Il y a une belle vision de Jean dans l'Apocalypse 19-11 où il y a Jésus qui apparaît sur un cheval blanc qui va mener la guerre, un cheval blanc de guerre qui brise les barrières. Jésus est à l'œuvre. Aujourd'hui, on a tendance à avoir une vision un peu guidée par les médias qui nous attirent par ici, qui nous attirent par là. Il y a des fois, ils nous ont attirés par là. Et 2 mois plus tard, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé au fait dans cette histoire dont on nous bassinait les oreilles à longueur de journée? Plus personne n'en parle, on ne sait pas qu'est-ce qui est devenu de cet endroit, de cette situation. Et on ne réalise pas que Dieu est puissamment à l'œuvre dans notre monde en 2016. Il brise des barrières de partout. En ce moment, il y a un réveil en Irak. Ça, c'est pas France Info qui va vous le dire. C'est pas BFM TV. Il y a des musulmans qui se convertissent en masse à la foi chrétienne. Et dans les quelques décennies que nous venons de vivre, il y a eu des transformations spectaculaires en Amérique du Sud. L'Église évangélique a pris de loin le dessus sur les anciennes formes de religion qui étaient souvent mêlées à la superstition. En Afrique, il y a eu aussi des réveils, il y a des réveils en ce moment. En Chine, George Müller, le missionnaire au 19e siècle, il était parti et s'était offert en sacrifice, sa vie en sacrifice. Quand on lit sa vie, c'est terrible de voir la détermination qu'il avait, les maladies, il a été maltraité, attaqué par des foules. Quand il est arrivé, il n'y avait pas de chrétiens. Quand il, à la fin de sa vie, il y avait 100 000 chrétiens. Et aujourd'hui, on parle de 100 millions de chrétiens en Chine. Mao doit se retourner dans sa tombe, s'il vit encore dans sa tombe, je ne crois pas. On ne peut pas bloquer le royaume des cieux parce que Jésus a fait la brèche. Jésus a cassé ce qu'il fallait casser. Nous, on utilise le mot casseur le plus souvent. On a eu des casseurs à l'église et je les remercie pour le travail qu'ils ont fait, mais on utilise ça dans un mauvais sens. Je terminerai par juste un verset dans l'Évangile, Matthieu 11, 12. Un verset qui pose des fois, lorsqu'on le lit, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. « Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force » ou a fait irruption avec force, suivant les traductions, et des violences en emparent. Je vous parle de ce verset parce que au Moyen-Âge, il y avait des rabbins qui avaient maintenant le Nouveau Testament, qui avaient ce verset de Jésus, qui annonçait ce fait que le royaume des cieux est assailli, attaqué avec force, et des violences en emparent. Ils faisaient leur rapprochement en disant que c'était le même message que Michée 2,13. C'était un dénommé, le rabbin David Kinchi, la kimchi, comme la nourriture coréenne. Il a vécu entre 1160 et 1235. Et en fait, dans ce verset, il y a le mot violence. Et le mot violence, on a souvent tendance à le voir négativement, parce qu'on parle des violences des combats, des violences policières, la violence qui fait mal, mais il y a aussi un sens positif au mot, comme la violence du courant. Ça peut être une bonne chose lorsqu'il faut alimenter des centrales hydroélectriques. La violence du vent lorsqu'il faut faire tourner des éoliennes. Et l'idée, c'est que il y a une opposition violente, sans merci, de l'ennemi, de Dieu, du diable. Il s'oppose de toutes ses forces au progrès du royaume de Dieu. Et donc, il faut faire preuve d'une force contraire, déterminée pour faire avancer le royaume de Dieu. Il faut être prêt à avoir la même énergie que Jésus-Christ qui fait la brèche. Et nous passons dedans et nous suivons Jésus. Ça demande de l'énergie, de la détermination. Ça ne veut pas dire qu'on doit être violent et qu'on doit crucifier comme les croisés le faisaient. Non, non, non. Ça, c'est de l'histoire non voulue par Dieu, dont on ne doit jamais se revendiquer. On doit faire tous nos efforts pour faire avancer le royaume de Dieu. Dans la prière, dans le combat spirituel, dans notre résistance à la tentation, Hébreux 12,4 disait « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat avec le péché. » La prochaine fois que vous êtes tenté, que le péché vient vous frapper à la porte, vous pouvez vous rappeler est-ce que je combats vraiment ou est-ce que je me laisse faire rapidement? Ou est-ce que je résiste violemment? Il faut aussi faire preuve de détermination, de force et d'une certaine façon de violence dans l'amour des autres et dans les bonnes œuvres. Faire des bonnes choses au nom de Dieu. Savoir que le Dieu qui nous inspire, c'est un Dieu qui aime tous les hommes et nous le montrons. Et aussi dans l'évangélisation. Donc je cite juste ce verset parce que c'est souvent un verset qu'on comprend mal. Et j'ai été vraiment intéressé de savoir que des commentateurs, des gens, des hommes de Dieu qui réfléchissaient à ces choses, disaient en fait, ils parlent de Jésus le casseur là. Il faut être violent. Il faut casser, quand vous cassez quelque chose, il faut prendre la masse et exercer de l'énergie. Est-ce que vous avez des barrières dans votre vie? Est-ce qu'il y a une barrière entre vous et Dieu? Est-ce que vous avez déjà accepté le Seigneur dans votre vie? On va prier. Seigneur, merci pour cette merveilleuse illustration de ton œuvre à la croix. Comment tu es venu de notre côté, Seigneur. Tu es pour nous qui peut être contre nous. Tu es venu pour nous ouvrir une brèche, Seigneur. Une brèche vers Dieu, une brèche vers les autres. Une brèche dans tout ce qui nous bloque vis-à-vis du futur, des peurs du futur, que ce soit aussi la peur d'aller vers les autres dans le monde. Tu as brisé toutes ces barrières, Seigneur. Aide-nous à être violents dans ce brisage de barrières, Seigneur. Aide-nous à repérer les toiles d'araignée qui peuvent devenir des moustiquaires, puis du grillage et du mur, les uns envers les autres. Ne laisse pas nos peurs nous paralyser, nous enfermer. Ne laisse pas l'égoïsme nous empêcher d'aller porter cette bonne nouvelle aux autres. Seigneur, parle à chacun maintenant. Je vous invite juste en silence et vous pouvez garder les yeux fermés si dans votre cœur vous n'êtes jamais allé vers Jésus, vous n'avez pas emprunté la brèche qu'il a ouverte et que vous vouliez venir à sa suite, vous vouliez l'accepter comme votre Seigneur, comme votre leader, celui qui passe la brèche avec l'étendard de la liberté. Je vous invite à lever discrètement la main. Le jour du salut, ce n'est pas dans 150 ans, c'est maintenant, nous dit l'apôtre Paul. Mais aussi si peut-être vous réalisez que dans votre vie, vous avez des barrières avec des parents, avec des membres de vos familles, des amis, des collègues au travail, des élèves, des enseignants. Et vous voyez que ce n'est pas la volonté de Dieu que de garder ces barrières. Je vous invite là aussi à lever la main discrètement. Merci Seigneur pour ces personnes qui veulent briser ces barrières. Peut-être qu'il y a aussi des peurs que vous devez briser. Vous êtes paralysé par la peur, par une panique concernant le futur, concernant votre avenir. Dieu ne veut pas que vous viviez dans cette peur. Vous pouvez aussi me le signaler en levant la main discrètement. Et peut-être que vous sentez que vous devez être plus violente dans vos efforts contre le péché, avec l'aide de Dieu, dans vos efforts pour aimer les autres, faire des bonnes œuvres pour l'évangélisation. Là aussi, je vous demanderai de le signifier à Dieu en levant la main. Amen. Seigneur, merci pour ces personnes à qui tu as parlé ce matin par ce message de Jésus le casseur, Seigneur, ce message de Michée 2,13 et de Matthieu 11,12. Merci parce que tu veux transformer, tu veux retourner, tu veux labourer, tu veux œuvrer, tu veux briser, Seigneur, ce qui nous empêche d'être en pleine liberté avec toi, Seigneur. Sois glorifié, sois béni. Dans le nom de Jésus, nous te demandons ces choses. Amen.